12 interviews, 2 jours, un festival, sais-tu ? Voilà !
Vous êtes en partance pour Sais-tu avec le spectateur et graphiste Léo Ravi.
C'est parti.
La 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 la.
Assis ou assise sur une banquette de 3, la navette démarre. Je vous ramène à la gare des Lions. Vous êtes dans vos pensées. Un peu mélancolique, mais heureux de bientôt retrouver le confort de la maison après cette fraîche nuit en camping. Vous observez le paysage qui défile. Il n'est plus tout à fait le même qu'à l'aller. Il a été comme habité. As-tu passé un beau moment, je te demande. Je m'autorise le tutoiement. On se connaît un petit peu après ces 2 jours. C'est vrai. Sais-tu, c'est faire collectif pour le week-end. Spectateurs, organisateurs, artistes, bénévoles, travaillent, mangent, campent et regardent ensemble des performances. Chacun à son rythme, à celui de la météo et du bruit des animaux. Nous sommes dimanche en fin de journée. Le festival est terminé et on écoute Léo Ravi, spectateur passionné, nous parler de lui et de sa première expérience du festival. À la voix de Léo s'ajoute celle de Guillaume Pellet, qui pour l'émission nous lit des extraits du texte que Léo a écrit à sa grand-mère pour lui raconter ce qu'il a vécu pendant ces 2 jours à Sais-tu.
Je m'appelle Léo, j'ai 28 ans, je suis graphiste.
D'accord.
Donc voilà, je passe mon temps sur mon ordinateur.
Est-ce que tu peux un peu me décrire ton lien à Sais-tu ?
J'ai découvert Sais-tu un peu par hasard. Donc, j'avais de la famille à Quimper. Donc, ma grand-mère habitait à Quimper et donc j'allais souvent à Quimper. Et j'ai vu les posters un jour qui traînaient. Et voilà, je les ai trouvés sympas. Donc j'ai commencé à m'informer un peu. Et j'ai suivi sur les réseaux sociaux pendant quelques années. Petit à petit, j'ai aussi découvert qu'il y avait des copains à moi qui étudiaient avec moi en Hollande, qui avaient participé au festival ou qui allaient au festival. Donc du coup, j'ai commencé à être de plus en plus curieux. Et voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, va falloir y aller, quoi. Donc je suis allé là l'année dernière.
Et est-ce que tu connaissais déjà la performance avant d'aller au festival ?
Ah oui, je connaissais déjà la performance avant d'aller au festival. J'ai fait des études d'art, donc j'ai passé quelques années dans une école où on essaye un peu tout et n'importe quoi. Et donc la performance fait partie des passages un peu obligés pour expérimenter un peu avec ça. Ouais.
Est-ce que tu en as déjà fait toi-même ?
Peu, mais un peu, ouais. Ça m'est arrivé. J'ai toujours préféré être spectateur un peu de la performance qu'acteur, principalement parce que je trouve que il peut y avoir une ambiguïté dans la performance qu'il n'y a pas dans les trucs comme le théâtre. Et donc, en fait, en tant que spectateur, tu peux très vite t'auto-déclarer acteur. Et j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus drôle d'être dans cette position-là que d'être le centre d'attention, en fait. Mais plutôt être un satellite autour.
Après être allé au festival, tu as écrit un texte, c'est ça ?
Exactement.
Est-ce que ce texte, tu l'as écrit juste après le festival ou pendant, ou comment ça s'est passé ?
La semaine d'après.
Et
Parce que je suis allé au festival avec des amis. Donc en fait, j'avais invité, c'était la semaine de mon anniversaire. Okay. Le festival s'est passé le week-end de mon anniversaire, c'était quelques jours avant. Donc j'avais invité un groupe d'amis que j'ai rencontré en Hollande à venir. Et je leur avais aussi proposé de venir au festival avec moi. Bon, ça a été assez drôle pour eux, bien sûr, parce qu'ils sont, pour la majeure partie anglophone, on va dire internationale, ils ne sont même pas forcément anglais d'origine. Et donc voilà, c'était assez drôle parce qu'effectivement, on est allés au festival tous ensemble et ils ne parlaient pas un mot de français. Donc j'ai aussi eu cette position un peu particulière de traducteur un peu par moment, ou de médiateur, je ne sais pas comment on pourrait dire. Et j'ai écrit quand ils sont partis.
Et tu as mis longtemps à l'écrire ?
3-4 jours, je dirais.
Et pourquoi tu as écrit ce texte ?
Alors, j'ai l'habitude d'échanger beaucoup avec ma grand-mère sur tout ce que je fais, on va dire, sur les spectacles que je vois, sur les festivals que je visite, sur les films que je vois. Donc, j'ai un peu cette habitude de toujours raconter à l'écrit à ma grand-mère les œuvres que je vois ou que je côtoie. Donc, c'était un peu naturel pour moi de passer un petit moment comme ça à réfléchir au festival en écrivant à ma grand-mère. Ouais.
Est-ce que ça lui a donné envie de venir au festival ?
Malheureusement, ma grand-mère ne peut pas aller au festival parce
D'accord.
qu'elle est décédée. Quelques années avant, quand je lui en avais parlé, elle était intéressée, ouais, mais elle avait déjà des problèmes un peu moteurs, donc c'était pas vraiment possible pour elle.
Donc là, quand tu as écrit cette lettre à ta grand-mère, elle était déjà décédée.
Ouais. Elle est
Donc.
décédée quelques mois auparavant. Et donc, du coup, j'étais chez elle, quoi. Je suis resté à Quimper pendant quelques mois.
Donc tu continues à avoir un lien avec elle.
En tout cas, je continue à chercher à l'entretenir, ouais.
Est-ce que ce lien, tu l'entretiens autrement que par l'écrit?
Non. En tout cas, pas pour l'instant.
J'avoue que j'étais impatient. Durant toute la matinée du samedi, je ne pensais qu'à y aller. Je ne m'attendais à rien, mais ça faisait un petit moment que je voulais le visiter. Cette année, le festival de performance Sétu fêtait ses 5 ans. Il se déroule chaque année dans une ferme pédagogique de la commune des Lions. Première journée, samedi. Denis, Sarah, Sun, Walter et moi-même arrivâmes à la ferme vers 13h30. Le festival avait commencé et nous étions désorientés. Que se passait-il? Où? Quand? Le programme était écrit sur des panneaux à l'entrée. Les lieux étaient discrètement indiqués. Et quelques minutes plus tard, une performance allait démarrer. Nous n'avions qu'à suivre le mouvement. Discovery Magical Butterfly, Cozy FX Channel. Le paysage était parfait, le ciel bleu. Et une personne, habillée comme mon père dans sa jeunesse, se tenait droit dans la prairie entre deux enceintes bien espacées. Champ de vue maximal, conditions idéales. Nous étions plus ou moins une trentaine à regarder le danseur interpréter une partition, vraisemblablement faite à partir d'une banque d'effets sonores. Façon pantomime open source, sa chorégraphie était celle d'un imaginaire protéiforme, mais radicalement virtuel. À mi-chemin entre la science-fiction et les mangas animés. Comme passer un après-midi dans le Construct de Matrix, avec le fond d'écran de Windows XP. Ou comme imaginer Son Goku faire des ricochets sur la planète sauvage. Légère nostalgie. J'ai pris plaisir à l'observer. Puis il fallut se rendre à l'évidence. Nous étions un peu perdus. La Covid avait restreint l'organisation du festival et la majeure partie des performances avait une jauge limitée. Il fallait attendre qu'on vienne nous chercher au foyer ou prendre l'initiative d'explorer les lieux sans s'attacher aux activités. Alors avec Denis et Sun, nous partîmes faire notre classe verte indépendante, direction la forêt, pendant que Walter et Sarah restèrent caresser des chevaux.
Entre deux rédactions de paragraphes pour sa grand-mère, Léo prend des pauses. Il s'étire lentement sur la musique de Paplaya du groupe Alice.
Je suis long, même long, comme une journée à la plage, et je t'emmerde, je t'emmerde. Comme une journée à la plage, je suis facile, facile. Vamos a la playa, vamos a la complicación, vamos a la vida, vamos a la dificultad, vamos a la playa,
vamos a la complicación,
vamos a la vida,
vamos a la dificultad.
Facile, facile, facile et chiant, compliqué, compliqué et intéressant. Ah, facile, facile, facile et chiant, compliqué, compliqué et intéressant. Ah, facile, facile, facile et chiant, compliqué, compliqué et intéressant. Ah, facile, facile, facile et chiant, compliqué, compliqué et intéressant.
L'audioguide des polycopiosques. Au foyer, j'ai changé ma carte d'identité contre un audioguide. La majorité de la bande ne pouvait pas vraiment en profiter, vu qu'ils ne parlaient pas français, mais moi, si. Alors je fis office de traducteur à partir de là. L'audioguide racontait l'histoire des polycopiosques, une communauté ancestrale d'imprimeuses lesbiennes, à travers 5 lieux du festival. La narratrice, archéologue, nous parlait des modes d'échange, de survie, et de transmission de cette communauté fictive. On y trouvait de très belles idées, comme celle de cacher une recette secrète dans les paroles d'une comptine pour enfants, ou celle de mettre de la poussière de diamant dans les cendres des défunts, mais aussi celle de déposer des coquillages sur le domaine pour que les générations futures enquêtent sur leur présence si loin de la mer. Recettes, diamants et coquillages, les signes de vie d'une communauté opprimée et finalement chassée de la région par leurs détracteurs masculinistes. Par contre, je ne vais pas te mentir, j'ai trouvé le tout assez dense et je perdais parfois le fil de l'histoire. J'espère que l'artiste mettra les fichiers sons en ligne quelque part.
Dans ton texte, on a, t'es vraiment comme un critique un peu, un spectateur, mais très averti. Est-ce que c'est une position que tu connais ?
En privé, oui. J'ai pas de position publique de critique ou de quoi que ce soit, mais c'est vrai que je trouve que quel que soit ce que je vais voir, en parler ou écrire dessus, c'est avant tout une manière de faire passer ça un peu par le prisme de ma réflexion. Ouais, donc c'est vrai que, qu'en plus, ayant étudié l'art, j'ai forcément tendance à réfléchir un peu à ce qui se passe, à ce que j'ai ressenti, à ce à quoi ça m'a fait penser après. Donc c'est vrai que tout ça, c'est des choses qui font partie un peu de mon processus naturel quand je suis confronté à des œuvres artistiques, ouais. C'est vrai que je passe du temps à réfléchir à ces trucs-là, donc c'est vrai que je suis content que ça se ressente, que ce soit le cas.
C'est quoi quand tu dis tu passes du temps à réfléchir à ces trucs-là ?
Bah là, pareil, pour ces performances-là, c'est-à-dire essayer vraiment de me souvenir de ce que j'ai ressenti quand j'y étais, de ce que l'artiste a dit, de ce que le public a de comment le public réagissait, voir un peu tout ça, et après essayer de le comparer dans ma tête aux choses auxquelles je suis familière et voir pourquoi ça pourrait être comme ça. Donc c'est vrai que quand je pense à la performance de Lagrange, qui finalement c'est un peu une présentation PowerPoint, mais dans un cadre un peu, on va dire, un peu plus improvisé ou un peu plus spécial, on est familier un peu, ouais, de la présentation comme ça, qui rappelle presque l'école en fait, hein, qui rappelle presque plus des scénarios d'école. Et qui est aussi, à mon sens, plus modeste. On sentait que cette personne-là, elle faisait moins une performance et plus un compte rendu également. Donc tu vois un peu toutes ces différences. Celle où la fille, elle courait, elle a couru, je ne me rappelle plus des noms, hein, mais la performance où elle courait jusqu'au ruisseau et tout, avec le texte, ça aussi, il y avait quelque chose de l'ordre un peu du théâtre flexible et tout, qui était assez sympa.
What are you then? You decide. À la sortie du trou du diable, nous vîmes un groupe assez large se diriger vers la forêt. Apparemment, une performance venait de commencer, et une femme était partie en courant vers là-bas. Elle portait une robe couleur verdâtre plutôt délicate, et nous emmena vers un ruisseau. En chemin, nous revîmes le tronc qui nous avait barré la route plus tôt. De jolies petites fourchettes aux doigts tordus et des murs étaient toujours posés dessus. Une fois le public attroupé, la jeune femme commença à traverser le ruisseau pendant qu'un enregistrement sonore scandait des phrases en anglais. Des phrases sèches, dures, presque robotiques. Elle parlait tantôt de rapports sexuels, amoureux, ou de leur absence avec un ton détaché, voire anesthésié. Au milieu du ruisseau, la protagoniste s'arrêta, et quelques secondes de concentration plus tard, pissa dans l'eau. Un temps fort court et moins inconfortable que je ne l'aurais cru. Après avoir terminé son besoin, elle rejoignit la berge d'en face et commença à répéter les phrases préenregistrées en nous regardant. Son regard rendait les paroles plus désabusées. Je me sentis triste. Elle fit le poirier, découvrit ses fesses et révéla par la même occasion la beauté fragile de sa robe. 30 secondes? 1 minute? Elle resta dans cette position quelque temps avant de se redresser et de s'en aller au fil de l'eau. Quelques-uns d'entre nous, publics, la suivîmes depuis la berge jusqu'à ce que nous entendions des applaudissements. Clap de fin. Les fourchettes tordues avaient-elles un rapport avec la performance? Je n'en sais rien.
Est-ce que c'est un type de performance qui t'est très familière ou est-ce que tu avais l'impression de découvrir une nouvelle manière de faire de la performance?
Dans la majeure partie, c'était assez familier. On va dire que la performance de The Soft Protest Digest, donc celle qui était un peu plus... pas militante, mais bon, qui avait ce côté un peu plus écologique et qui était moins dans la performance, en fait, et plus dans, je sais pas, une initiative avec un petit moment rituel, on va dire, ou ritualisé. Ça, j'étais moins familier. Mais après, c'est vrai que les autres performances, c'était des choses auxquelles j'étais plus familière. Ouais,
Mais du coup, c'était un texte adressé à ta grand-mère. Et est-ce que c'est quelque chose qui te pose question?
Ouais, carrément. Carrément, à qui s'adresser, c'est vrai que c'est un truc qui me travaille pas mal dans la question d'écrire. Ouais. Très naturel pour moi, je parle à quelqu'un. Et quand finalement on s'adresse à, on va dire, à un milieu ou à un ensemble de gens ou à quelque chose de beaucoup plus flou comme ça, c'est beaucoup plus compliqué pour moi d'avoir un flow de mots. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que je ne me reconnais pas dans la figure forcément de l'artiste un peu en général ou ce genre de choses et que c'est des choses dont je suis plutôt satellite de ça, c'est parce que je pense que c'est avant tout ce genre de prise de position, c'est de se dire moi ce que je ressens ou ce que je pense, je vais le confronter à un public et ce public n'est pas forcément défini. Et après ça dépend, hein, bien sûr, je veux dire assez tu finalement c'est pas forcément adressé à un public spécifique non plus quoi, donc c'est un truc, cette question comme tu dis de l'adresse, elle est importante pour moi, ouais. En tout cas, pour se poser la question de où, de qu'est-ce qu'on va raconter à qui.
Et tu as jamais réfléchi à écrire tes textes en public?
Si, j'y ai un peu réfléchi, mais depuis très récemment. Ça fait quelques mois là que je me dis que si ça continue comme ça, l'écriture, ça pourrait être une bonne manière aussi de continuer à contribuer un peu à l'art ou à tout ce monde.
Est-ce que toi, tu lis des choses sur l'art?
J'en ai lu pendant mes études, pas mal. Après, maintenant, j'ai un point de vue très, très pas critique, mais en tout cas, j'ai de plus en plus de mal à lire dessus, à lire de la théorie ou à lire des choses qui veulent intellectualiser trop. J'ai de plus en plus de mal à rentrer par là. Maintenant, je lis des écrits d'artistes, où je vais lire un livre qui a été écrit par un artiste comme si c'était une œuvre, tu vois, un peintre qui écrit un texte ou genre des choses comme ça. Ça, je vais m'intéresser à lire ça. Mais vraiment du travail d'écriture ou de théorisation de l'art, ça, c'est des choses qu'on m'a un peu forcé à lire à l'école et qui, pour la plupart, ont pas laissé une empreinte très intéressante, quoi. Tu vois, genre parler de mouvement, parler de type d'esthétique et tout ce jargon ou cette manière de s'approcher de la chose m'a un peu désenchanté. Je trouvais ça plus intéressant de rester sur le... Ouais, comme j'écris un peu, j'essaye de rester un peu loin du jargon. Je ne sais pas si ça se voit, mais en tout cas, de faire de la narration, en fait. Parce que tout ça, c'est des histoires. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois.
Drama More Show et ses amis. La dernière performance de la soirée allait commencer. Le Drama More Show. Un loto animé par Drama More, une personne en costume de perroquet. Le show se déroula sur une petite estrade. Il y avait une armoire sur laquelle était attaché un tissu avec plusieurs numéros, une petite machine de loto pour tirer des numéros, et un micro. Au départ, tout était plutôt fun, et une invitée spéciale jouait de la musique chouette. Cela dit, j'avoue avoir décroché quand le perroquet a passé une dizaine de minutes à maquiller une spectatrice. À ce moment-là, ma qualité d'écoute est passée par la fenêtre, et je me suis rendu en marge du public pour voir comment se portaient mes amis anglophones. Ils étaient perdus mais avaient apprécié l'invité musical. Pendant notre échange, le show eut quelques fulgurances de beauté, notamment lorsqu'un des invités spéciaux demanda au public de fermer les yeux et fit une démonstration de souplesse et de grâce devant un public aveuglé par son respect. Étonnamment, nous les inattentifs avions profité pleinement de cette partie de la performance. Le spectacle fut alors clôturé par la lecture d'un discours de remise de diplôme, prononcé par Ursula K. Le Guin en 1983. Ce discours, magnifique et percutant, venait en quelque sorte pour justifier l'heure passée. La transformèrent en une apologie de la vulnérabilité, de l'échec et des faiblesses, comme une résistance à la norme des puissants, aux conditions des hommes. Je me suis assez longuement demandé ce que le show aurait donné sans cette conclusion. La performance était dure à suivre et se voulait du côté des perdants. Ou en tout cas du côté de ceux qui ne réussissent pas. Un pari risqué parce qu'a priori aliénant pour nous autres habitués du spectacle efficace. Même à Sétu, la majeure partie des artistes avaient mené, orchestré et produit leur présentation de manière assez pro. Ou était-ce des performances de professionnalisme? En tout cas ici c'était tout l'inverse. La précarité du décor et les silences gênants étaient palpables. Je serais sans doute passé à côté sans le discours de fin.
Thank you for your love. Thank you for the heart. There'll never be a long and lonely night again. Thank you for your love. Thank you for the heart. Girl, please don't ever let me be alone again. Thank you for your love. Thank you for the heart. There'll never be a long, a lonely night again. Thank you for your love. Thank you for the heart. Girl, please don't ever let me be alone again. At love, love became an empty game. I walked away from love. I always had myself to blame. I hid my fragile dreams away.
Et est-ce que tu peux juste nous dire un peu comment elle était ta grand-mère?
Ma grand-mère, elle s'appelait Malou Ravi. Elle a vécu à Quimper toute sa vie. Il y a d'ailleurs une librairie à Quimper qui s'appelle la librairie Ravi. Et voilà, je recommande à quiconque écoute ce que je vais dire de faire des recherches sur ma grand-mère. C'était une personnalité absolument merveilleuse qui m'a appris plus ou moins comment exister jusqu'à ce jour. Elle était rayonnante. Je dirais qu'elle était vraiment ouverte à parler avec tout le monde, tout le temps. Elle aimait sa vie, elle aimait les gens. Et elle avait vraiment une capacité à aimer que je veux porter en moi le plus longtemps possible. C'est ce rapport, comme tu dis, critique aux choses. C'est elle qui me l'a appris aussi. Réfléchir à ce qu'on regarde, à ce qu'on fait, en parler, s'en servir pour se nourrir au quotidien. pour évoluer quoi un peu, tu vois, pour faire partie de la société, pour s'engager avec les choses. Tout ça, c'est des choses que c'est elle qui me les a transmises. Donc c'est vrai qu'elle elle a une place absolument privilégiée dans ce que je suis aujourd'hui. Et voilà.
Trop bien. Bah merci Léo pour cette interview. Bah c'était...
Aucun problème.
L'émission se termine sur la chanson Fragile de Tatsuro Yamashita. Merci à Léo Ravi pour son texte, ses choix musicaux et cette interview réalisée en vidéoconférence depuis la navette Sétu. Merci à Guillaume Pellet pour la lecture, à Thomas Delahaye pour les jingles et à toute l'équipe du festival. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle interview et la découverte d'un autre univers. Deux interviews, deux jours, un festival, sais-tu ? Voilà !